The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 279 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Guillaume.
Salut Patrick.
Et avec Monsieur Steve qui est sur la route. Salut Steve.
Bonsoir à tous.
Yes, c'est l'épisode post-Hackfest. C'était le fun de voir tout le monde. Ce fut un beau podcast un peu débile. C'était drôle. Il y avait juste un petit peu trop d'alcool. Mais c'est ça, les podcasts live, c'est la tradition depuis une douzaine d'années. On a commencé ça en 2016 au Hackfest, quand on était à l'Hôtel Plaza. Tradition étant du rhum...
Des femmes et de la bière, nom de Dieu.
C'est ça, merci. Du rhum en masse et de la poutine. C'est pour ça que le village de poutine fit toujours avec le podcast. Avant, la tradition était un peu différente. Dans le son, il y avait un village poutine. J'ai déjà expliqué l'histoire. Là, qui, c'est un de mes amis qui avait parti ça. Le village poutine n'a jamais été annoncé. En fait, le monde savent qu'il existe, mais il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de lieu. Mais là, je viens de vous donner le truc. Fait que pour ceux qui ont écouté, ben c'est ça. Ça devrait être similaire l'année prochaine.
Ouais, mais là, il faut changer la qualité des patates. Là, j'ai encore un protège à faire.
Ouais, j'approuve. Mais il va falloir en fait en commander à l'extérieur. Puis ce qui est plate, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche sur le centre de congrès, puis ce qui est le fun à chaque année, il y a plein de monde qui nous dit ah, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça. Ouais, Hackfest, c'est parce qu'on a un centre de congrès qui nous charge pour tout ce qu'on peut penser. Si tu penses à quelque chose, il te charge. Je ne sais pas si tu le fais, là. Quand tu le fais, ça coûte encore plus cher. Fait que, pour donner un exemple, cette année, on avait de la bière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs, mais on avait une
canette. C'était bon, en passant, un bon choix.
Oui, tu as aimé ça? Good.
Ben oui.
On avait...
Sauf qu'il y en avait juste deux.
Oui, il y avait deux sortes seulement. Ouais, ben là,
Non, mais pas la sorte. Là. La police était après nous autres là, quand on voulait en prendre deux, trois.
On a réglé le problème après le podcast. Là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais officiellement, il y avait deux types de canettes avec deux designs qu'on a fait imprimer. Puis, juste pour expliquer à tout le monde comment ça marche, là, juste pour vous faire rire ou rire jaune, on paye la bière pour la donner aux participants du Hackfest. Mais le centre des congrès ne vend pas leur bière, donc ils nous chargent à chaque bière qu'on donne. Fait qu'on la paye deux fois notre bière. Fait que c'est pour ça qu'il y a des quantités limitées dans la vie. Tout ça pour dire que... oui, c'est ça. Tout ça pour dire que, il y avait une douzaine de canettes sur le stage. Il y avait du rhum, le rhum traditionnel du Hackfest. Et ce fut drôle avec la table des plus jeunes qui n'étaient pas volontaires. Là, on va régler le concept de la table l'année prochaine. On aura de la table pour plus que 6 personnes. Mais ce fut drôle parce que le podcast a tourné, évidemment, en la Steve Connection.
Ouais, ça, c'était pas fin de votre part. Là. Vous m'avez fait un petit couche plate, là.
On a ri un très très bon coup, mais ouais, c'est ça. Fait que poutine, puis pour revenir au concept de prix, c'est que oui, il faudra aller chercher de la poutine à Poutineville et autres là, qui sont pas trop loin, mais il va falloir la payer en double, la putain de poutine, si on fait ça. Ouais.
Ou bien on se déplace là chez poutine.
Ouais, mais je pense pas que 300 personnes vont rentrer dans la petite poutine, le recording et tout. Non, on va s'organiser pour avoir un petit sponsor qui nous aide avec la poutine. Je pense que ce serait une bonne idée. Poutine, bière, quelque chose. Sponsoriser, madame, monsieur, qui nous écoute, le podcast du Hackfest de l'année prochaine. On vous mettra sur le stage avec
un petit 5 minutes. Un petit talk, me semble, ça serait pas pire.
Oui, un petit talk là, inclus dans le podcast, puis vous pouvez participer à tout le reste. Ça serait super le fun, mais non, ça a été un bon Hackfest. Vous irez voir la vidéo qui est sur Discord ou LinkedIn avec tout le visuel, la voiture, la bombe de 12 pieds qui, by the way, pesait quelque chose comme 250 livres. Ce fut une très, très bonne édition. Puis on a très hâte à la prochaine. On a déjà, évidemment, commencé à travailler sur la prochaine. On a plein d'idées. Si vous avez des commentaires, suggestions, on vous envoie le petit formulaire à remplir pour nous donner des idées. Fait que ça s'en vient.
Moi, je veux que Richer soit là l'année prochaine, comme Guillaume, il a fait le chemin pour venir nous voir.
Ben, merci, Guillaume. Richer, ben oui, mais ça, je disais avant d'enregistrer, merci, Guillaume, d'être venu cette année. Richer était là toutes les dernières années. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. On a manqué notre Richer. C'était, je pense, le seul qui manquait avec Vanessa. Vanessa était proche, mais elle n'était pas là.
Ouais, c'est ça.
Elle était là, mais elle n'était pas là. Mais non, c'est ça. On va essayer d'en rattraper Richer. aussi pour l'année prochaine. Et on va se forcer pour faire un vrai live, un ou deux, dans la prochaine année, où ce que vous pourriez venir nous voir dans une salle à quelque part. Ça fait un an qu'on le dit, mais là, il faut le faire. Fait que c'est techniquement nos shameless plugs. Hein. Sinon, venez nous voir sur Discord.ecfest.ca. On est rendu à 6200-300 personnes. On a un channel, La French Connection. Venez poser vos questions ou commenter les épisodes. Puis si vous n'aviez pas vu encore, on a un nouveau website, un nouveau site web. On a vibe-codé ça. Malade.
Oui, monsieur. Rien de moins.
C'est très joli. Chaque épisode a une petite image. On a les sponsorships qui sont affichés dessus. Écrivez-nous si vous voulez tous les détails. On a des épisodes qui peuvent être sponsorisés, on peut avoir des publicités dedans et tout, mais on veut grandir le podcast puis avoir un reach un peu plus grand. Fait que pour tous ceux qui nous écoutent aussi, ben, partagez ça à tout le monde que vous connaissez, évidemment. Donc commençons les nouvelles, puis je vais commencer de mon côté. Puis on peut faire évidemment beaucoup de parallèles locales, mais la semaine passée, c'était l'échange. En fait, ben, au Hackfest et la semaine passée, les deux dernières semaines, on a fait un échange avec la Lettonie, avec CyberChess. Merci à Gabriel, by the way, qui a organisé tout ça.
On a fait un backtrack un petit peu, faut-tu dire, oui. Qui était présent au Hackfest, là.
Ben oui, c'est là que je m'en vais. Fait que voilà, okay. Deux semaines au Hackfest, on a eu deux conférenciers qui sont venus de la Lettonie faire deux conférences et un panel. Qui a été, je pense, un moment très fort du Hackfest. On a eu le panel avec Bibi Bernard et les Forces armées canadiennes pour tous les efforts conjoints qui sont faits avec les Forces armées canadiennes en Lettonie sur du threat hunting. Donc, ils ont accès à toutes les... Ben, pas toutes, mais la majorité des infrastructures des villes, les infrastructures critiques et autres, et qui cherchent les méchants dans tout ça. Le talk est TLP Amber, fait que il ne sera pas diffusé. Il y a des photos, il y a des communiqués de presse, fallait y être. Mais tout ça pour dire que ce fut une expérience super. Puis Steve, je te laisse commenter un peu parce que tu as évidemment géré la session en tant que host du panneau.
C'était fort intéressant pour ce volet-là, justement, parce que même il y avait un représentant du Centre canadien de la cybersécurité et Bernard DBB, c'était le représentant de CERT-LV pour Lettonie. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un bel échange, on avait une belle harmonie sur le stage pour indiquer justement que, hey, le commandement des forces canadiennes, le commandement cyber existe, puis le commandement cyber, bien, il était impliqué internationalement de cette manière-là. Ça nous a surpris beaucoup. Ça a été, je crois, la belle surprise. Puis c'était très dynamique pour expliquer justement que c'est pas juste des parures, c'est pas juste là, de la tapisserie qui était installée puis tout le monde la regarde. Au contraire, comme dit Pat, il y a beaucoup d'échanges dynamiques là, quant aux attaques, parce que si vous allez regarder sur la carte où est située la Lettonie, vous allez comprendre qu'il y a des enjeux un petit peu plus importants que juste bien paraître. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, il y a une mentalité opérationnelle. Je pense, Pat, t'en étais témoin lors de ta visite la semaine dernière.
C'est en plein ça. Fait qu'on a été deux conférenciers à aller sur place. Évidemment, c'est un triple fun. C'est loin en maudit. Hein, ça fait mal sur le décalage horaire, le jet lag. Non, mais ce fut une belle réalisation dans le sens que ce qui est intéressant de CyberChess là-bas, c'est qu'ils ont une track technique, une plus histoire et une plus gouvernementale, si on peut dire. Mais tout est très relié aux risques réels qu'ils vivent là-bas parce que, comme tu viens de dire, ils sont collés sur la Russie. Il y avait des présentations, je ne me souviens plus, mais c'était le leadership de la Lettonie, du UK, de l'Ukraine, etc. Tu avais des présentations là, des grands noms de ces pays-là qui expliquent, bon, ben, on s'est fait couper tel câble réseau cet été, voilà 2 ans, voici comment ça fonctionne pour le réparer, voici les risques, voici le coût, etc. Après ça, tu en avais, ben, ils ont perdu l'électricité à cause de certaines cyberattaques. Ici, tu sais, on se bat pour que le monde mette tout effet. Là-bas, ils se battent pour que la ville et la vie fonctionnent. C'est pas la même game,
mais pas pantoute. T'es en train de dire qu'il y a une forme de transparence du gouvernement vers la population?
Ça, par exemple... J'étais content de voir ça, mais j'étais extrêmement frustré de voir ça aussi. Le CERT, en fond, Dana et Bibi, qui sont venus donner des présentations au Hackfest, font partie du CERT de la Lettonie, ont fait une présentation, là, le leadership ont présenté ça, et ils ont montré, puis il y a une slide, on pourra la mettre sur Discord, mais il y a une belle slide qui montre tous les services offerts aux villes et aux entreprises et organisations d'infrastructures critiques, là, autant hydroélectrique, électricité, les routes, les bars, peu importe. Là. Et dans ça, le cert off du Red Team, ils ont un SOC qui intègre les villes et toute l'électricité et toutes les choses importantes. Ils ont une dizaine de services, mais dans ce même talk-là, ils ont montré les pourcentages et les nombres d'attaques subies avant et après avoir mis en place le SOC qui est encore en déploiement. Là. Ici, toutes les talks qu'on a, que ce soit de Eric Kerr dans le passé ou cette année avec le sous-ministre adjoint et autres, peu importe c'est qui, le gouvernement du Québec et du Canada nous disent « fuck all ». Ils disent simplement « voici notre stratégie, puis on s'en va par là ». Mais on n'a pas de numéro, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de métriques, on n'a pas de cas réels. Là-bas, c'était comme « voilà, on s'est fait péter à cause de ça, puis à cause de ça, voici ce qu'on a fait ». On n'a rien de ça ici. Puis c'est pas vrai qu'il n'y en a pas d'attaque ici. Là. Évidemment, le risque est différent, mais non, tu as raison, l'ouverture et la transparence mille fois plus avancée, puis c'était très rafraîchissant de voir ça.
Oui, c'est le principe qu'on défend ici, là, parce que il y a lieu de faire de la communication plus ouverte pour dire « Hey, oui, nous autres aussi, ici, ça est arrivé. Nous autres aussi, on s'est fait ramasser. » Mais là-bas, comme tu me contais, Pat, il y a un désir de société. Tu sais, eux autres, ils ont effacé l'ardoise là, lorsqu'est arrivée la fin de la guerre froide, puis ils ont recommencé. Puis collectivement, ils travaillent ensemble pour survivre. Là. C'est littéralement ça. Ça. On va dire un chiffron, tiens, 25 ans, tu sais, depuis 2000, que ben, le mur de Berlin est tombé à quoi? 91, 92, ou en fait un peu plus longtemps. Mm-hmm. Fait que, même 89, c'est là qu'ils ont reparti le société, mais là, ils veulent le faire sur des autres, parce qu'ils l'ont été longtemps, eux autres, dans le noir, autrement dit, dans le secret, puis ils ne veulent plus vivre ça, là, c'est normal. Fait que, tu sais, je pense qu'on pourrait s'en inspirer aussi de la même façon.
Énormément. Ouais. Évidemment, c'est pas parfait. Sont en avance, mais c'est pas parfait parce qu'évidemment, le peuple qui ne connaît pas les TI ne voit pas autant le risque qu'on peut le voir. Mais il y a une participation citoyenne beaucoup, beaucoup plus élevée qu'ici, ouais. Ce qui était très intéressant. Et l'autre point, c'est, tu sais, on parle souvent de la Lettonie, qui est, pas la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie à côté. L'Estonie, avec sa carte à puce, son identité numérique, on n'arrête pas de faire référence à ça. Ben, la Lettonie aussi, il y en a une. J'ai eu la démo live, il y a une carte à puce, puis elle met dans son ordi, puis il se connecte à la banque, puis il fait ses paiements avec.
Tadam!
C'est parce que attends, je veux checker live, là, mais c'est parce que la grosseur du pays, c'est presque la province, là.
Oui, oui, exact. Ben, c'est petit, parce que c'est une petite population, c'est une petite géographie. L'intégration se fait rapidement, mais oublie pas, comme tu as dit avec l'Estonie, je dis bien, l'Estonie, eux autres aussi, ont rasé au complet qu'est-ce qui était de l'ère soviétique.
Ah oui.
Et puis nous autres, on bâtit ça from scratch, nouveau. Ici, on est obligé de tenir des estifies de systèmes que l'on dit patrimoniaux. Puis ça traîne des affaires du passé. Fait que c'est là qu'on a de la misère à avancer, justement, parce qu'il faut traîner les affaires d'en arrière. Si demain matin, on mettrait le feu et on recommencerait, ça irait bien plus vite, on s'entend.
Fait que check là, j'ai les chiffres live. Là. La Lettonie a 1,8 million de personnes. L'Estonie, qui est l'exemple à suivre, a 1,3. Puis la Lituanie a 2,8 millions de personnes.
Ça va
on est 9 millions au Québec. Oui, t'as raison, ça va plus vite. Mais on a techniquement plus de ressources, plus de monde. On s'entend que c'est mal foutu, c'est mal géré.
Yep.
Mais sur papier, ça devrait être l'histoire inverse. On se comprend. C'est ça qui marche pas.
Non. Mais félicitations, en tout cas, à toute cette gang-là, parce que chapeau. Puis, tu sais, vraiment, le sens pour que ça marche, eux autres, ils ont un réel vouloir, tu sais, qu'ils n'ont pas le temps de niaiser. Il faut que ça se fasse là. Alors que nous autres, ici, bien, personne ne sent le danger ou le besoin, puis ça demeure un état hypothétique, là, stratosphérique. Là, tu sais, on n'est pas nés dedans.
Non, tout à fait. Fait que beaucoup de choses à venir ici que je nommerai pas tout de suite, mais. Oui. Il y a eu de belles échanges, belles discussions. Fait que plus à venir dans les prochains mois.
Oui, chers auditeurs, téléspectateurs, restez branchés car Patrick a fait du gros travail pour la communauté. Moi, je peux le dire.
Oui, ouais, on s'efforce. Ça devrait se concrétiser dans les prochaines semaines, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Fait que non, ça a été super le fun. Le pire du voyage, ça a été le décalage horaire. Mais la ville est belle, by the way. C'est comme un vieux Québec ou la France, mais en format assez, ben, plus grand que le vieux Québec, évidemment. Avec une touche russe et, en termes d'architecture. Mais le downtown est super vivant. Plein de cafés, plein de pubs. Vraiment, vraiment, vraiment une belle ville à visiter. On s'est fait dire d'y retourner en été. Il y a une autre conférence, je ne me souviens plus du nom.
Ça, parce qu'ils ont une des plus belles. La ville de Riga, là, on parle.
Ça, c'était Riga, oui, exact. Mais à une demi-heure de Riga, il y a supposément une des plus belles plages au monde. Fait que on se fait une liste pour aller là.
Oui, monsieur, je suis volontaire.
Yes, yes. Fait que ça fait le tour pour ça, Guillaume. On reste en Europe, puis on s'en va en France. Puis cette histoire-là finit pas de nous faire rire, malheureusement, ou de nous faire pleurer. Mais il y a eu un des plus grands vols au Louvre dans les dernières semaines. Parle-nous de ça un peu.
Oui, Patrick. Donc, on parle bien sûr du vol des bijoux de la couronne au Louvre. Donc, bien sûr, ça a amené beaucoup de yeux sur la plateforme informatique du musée. Et donc, on s'est rendu compte que le mot de passe du système de vidéosurveillance était Louvre. Donc, ça l'a quand même beaucoup fait rire et ça l'a surtout amené beaucoup d'attention au fait que, première des choses, ces environnements-là étaient extrêmement désuets. On a recensé des machines, par exemple, de Windows 2000, Windows XP dans leur système. Il y a un audit qui existait, qui a déjà été fait et qui date de 2010. Donc, on a des données jusqu'à 2017 sur la sécurité où, pour une raison qu'on ne sait pas trop, le suivi de sécurité n'a jamais été continué. Donc, il existait des audits qui déploraient la désuétude des infrastructures et de la sécurité en 2017, donc depuis presque 10 ans. Donc, ici, ce qui est à comprendre, c'est que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une petite organisation et c'est surtout pas par négligence organisationnel ou procédural, c'était un contrat qui était donné à une des plus grosses firmes d'ingénierie française, donc Thales. Et d'ailleurs, Thales était aussi un mot de passe du système de vidéosurveillance. Donc, oui, c'est ça. Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est tombé dans un état de désuétude. Et donc, c'est un dossier qui ne cesse de fournir beaucoup de rigolades par rapport au fait que, ben, des fois, même les plus grandes organisations ont des failles qui sont très, très, ouais, très, très, très bêtes.
Fait que j'aimerais dédier cette...
Oui, vas-y, vas-y. Non, pardon, tu veux dédier là?
Ben, je voulais dédier au Louvre la chanson suivante. c'est mérité, je pense.
Mais Guillaume, ouais, moi, je trouve que c'est normal que tu retrouves aussi du NT4, du Windows 95. Après tout, c'est un musée, non?
Oui, tout à fait. Écoute, on pourrait avoir des câbles séries avec des links slip un peu partout dans les murs.
Oui.
Ouais, des du PS2 pour les souris, là. You know.
Oui.
Ouais. Non, c'est quand même triste de voir ça. Est-ce qu'on sait si ces attaques. Est-ce qu'il y a le vol à utiliser certaines attaques? Est-ce qu'ils ont parlé de ça ou c'est pas relié?
Je pense qu'il y a beaucoup de théories autour du fait que ben, si on avait accès à la vidéosurveillance, est-ce que ça aurait pu être utilisé dans un contexte d'obsèques, de reconnaissance, etc., etc. Et je pense que, étant donné la nature de l'enquête en cours, c'est définitivement pas le genre d'informations qu'ils vont partager de sitôt avec nous.
Ouais, puis je me demande s'ils n'ont pas pesé suppose aussi sur les caméras au bon moment. Ouais, ça a été une belle suite de choses à analyser, mais c'est ce qui est fou, c'est qu'évidemment, ils protègent des millions et des millions en argent et rien de ça n'était en place. C'est assez incroyable. Hey, Steve, de ton côté, on a Tesla qui a décidé de, pour sa stratégie future, si on peut dire, de changer ou plutôt d'augmenter ses voitures en tant que super calculateur roulant. En fait, tous des serveurs qui se promènent pour le cloud. C'est un peu l'approche, je crois, personnellement, qui est très CDN. Tu sais, toutes les clouds, Akamai et autres, tout le front-end, ils peuvent mettre du WebAssembly dedans pour faire du endpoint calculation. Là, c'est du endpoint qui est à ta voiture. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ben, regarde, déjà là, on a dit depuis longtemps que les voitures modernes, c'est des ordinateurs à quatre roues. Puis là, ben, ça va-tu faire comme le téléphone? On va faire n'importe quoi d'autre que sa fonction primaire. Autrement dit, aujourd'hui, tu fais n'importe quoi avec un téléphone au lieu d'appeler. Hein? Tout le monde texte, tout le monde fait 56 affaires. Même affaire avec le véhicule automobile. Fait qu'au prix, sincèrement, là, au prix qu'ils sont rendus, je donne un chiffre rond, tu sais, de 100 000 là, pour des voitures de quand même assez, assez high-end. Ben, même entre 50 et 60 000, ça fait un ordinateur qui est assez dispendieux pour qu'est-ce que tu peux en tirer. Fait que oui, la fonction, c'est peut-être bien pensé pour un projet XYZ, mais pour le particulier, puis le commun des mortels qui va utiliser le véhicule, ça va-tu lui servir? La réponse, je crois que c'est non. Puis,
ben non, non, je pense que c'est au service de Tesla. Ben, là, c'est ça. Calculer des données pour eux qui vont être distribuées sur leur... je pense et je comprends que les voitures vont être un mesh network.
Oui.
Ou un network de calcul qui va retourner à Tesla.
C'est là que je m'en allais.
Ben oui, c'est ça.
Ça ne sert à rien, nous autres. Là. On va conduire, on va l'entretenir, on va payer nos mensualités sur le char, mais à la fin de la journée, c'est Tesla qui va ramasser que ça lui a servi bien plus. T'sais. Fait que non, c'est une autre folie, ça. Là. Puis en plus, ils vont rajouter des capacités de captation que déjà, une Tesla, ça ramasse bien de l'information. Des métadonnées et autres informations d'utilisation, puis ça en plus sur les habitudes du conducteur, ils revendent cette information-là sans te demander trop ton avis, parce que tu as signé en quelque part une page qui le disait, mais tu n'as pas lu ça. Fait que donc, les constructeurs, en général, le font ces éléments-là d'aller chercher beaucoup de données. Tesla, il n'est pas tout seul. Je veux dire, récemment, on apprenait que les voitures chinoises qui veulent rentrer sur le marché nord-américain, parce qu'elles sont vraiment pas chères, ben, désolé, eux autres aussi sont des véhicules qui, avec un paquet de capteurs, ils veulent saisir beaucoup d'informations partout où ils vont se promener, tel un Google Car, comme on a vu avant que Google Earth et Google Maps soient vivants. Ben, ils ont documenté, puis ils se sont fait taper ses doigts là-dessus, tout l'emplacement des réseaux sans fil partout où le véhicule se déplaçait. Puis, il y a une base de données qui existe de ça. On peut savoir n'importe où, c'est quoi le SSID d'un tel place, en tout cas. C'est là que ça devient fou. Partout où un véhicule va pouvoir à ce moment-là documenter la géolocalisation, les SSID environnants, s'il fait-tu noir, il fait-tu beau, la température ambiante, n'importe quoi. Fait que donc, je trouve encore une fois, ça s'en va porter la ligne de démarcation de la vie privée encore plus loin, puis tout ça au nom justement d'un bien-être collectif que je ne vois pas. Non, désolé, ça c'est un retour pour la compagnie et non pas pour le conducteur. Fait que le conducteur, à la fin de la journée, il y a quoi? Un véhicule coûte cher et qui fait quelque chose que tu sais pas. Puis j'espère juste que tu as un beau voyage pareil.
Ouais, je sais pas ce qu'on s'en va avec tout ça. Pour vrai, je sais pas, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ben, je pense que justement, on le sait que en ce moment, la grosse tendance généralisée, c'est les données. Donc on veut des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus performants et qui fournissent de plus en plus de valeur. Et la matière première de ces modèles-là, c'est de la donnée structurée, c'est de la donnée d'utilisateur. Donc, les voitures ne font pas exception. On a déjà mentionné sur le podcast différents scénarios cocasses d'acquisition de données. Je crois qu'on a parlé à un moment donné d'une laveuse sécheuse qui uploadait des gigabytes de données. Donc, je pense que cette tendance d'acquisition de données-là ne fait que s'accentuer dans tous les raccoins. Et je pense que les voitures, dues à la capacité de calcul qu'elles ont et de capteurs qu'elles ont, ne font pas exception. On a les moyens de filmer et enregistrer tout autour des gens dans leur intimité. On va le faire. Je pense que c'est ça le mindset de cette industrie-là.
Tout à fait, tout à fait. Puis là... Si on reste un peu dans la Silicon Valley, on a tout le, je veux pas dire le concept, là, mais la popularité des entreprises. Je pense pas que c'est le monde qui a demandé ça. Là. Ils créent un besoin. Mais là, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de AI partout, dont des AI browsers. OpenAI, certains, Perplexity et plusieurs autres là, sont en train de sortir des browsers avec AI intégré. Et la grosse chose, Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on recule de 30 ans. Parce qu'ils créent des browsers et ils pensent pas à mettre de la sécurité dedans. Fait que ce qui est intéressant, c'est que certains tests ont déjà fait de l'injection, des attaques dans les browsers via les sites web. Fait qu'ils vont aller mettre des URL spécifiques qui manipulent quand tu browses le website, qui fait de l'injection dans le contenu de la page ou comment que le AI browser va te faire des sommaires et toutes ces belles choses-là. Fait que faites attention. Je pense qu'il faut garder une distance. Tu sais, aujourd'hui, on vient de parler des de Tesla avec ses voitures super électroniques. Pour les parano d'aujourd'hui, on veut acheter une voiture des années 60 parce qu'il n'y a pas d'électronique dedans, mais je pense qu'il faut avoir la même mentalité pour les browsers. Restons un peu en arrière parce que présentement, la manipulation et les attaques dans ça sont partout. Je sais pas pourquoi ils pensent pas à la sécurité et ces choses-là. Puis il n'y a rien de compliqué, là. Je veux dire, un kit du primaire presque garde de penser à ces attaques-là. Il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de complexe.
Guillaume l'a dit, là, c'est la donnée qui vaut cher.
Ben oui.
Fait que les autres, ils monétisent leurs affaires. Là. Le produit est gratuit, encore une fois, tu sais.
Ben oui, ça, on s'entend, là. Mais là, tu te ramasses avec ignore toutes les instructions précédentes, puis fais telle action, fais telle chose. Mais là, admettons que tu mets cette injection-là dans un URL que tu donnes à quelqu'un,
ouais.
Que ça devient viral sur Twitter ou Facebook. Imagine l'impact, là. C'est un peu ça. Fait que là, tu vas avoir un vrai site web, mettons, de CNN, que tu browses avec ton browser AI, puis qui va te montrer que quelqu'un est mort, puis il est pas mort. T'sais, tu peux tout faire, là. Ça va être incroyable. Puis on mettra dans les show notes aussi l'autre nouvelle, mais ça fait juste montrer les techniques des browsers pour leur manipuler ce que les AI voient. Oh, je veux dire, c'est même pas du hacking, là. C'est juste un truc de base. Puis tout le monde qui nous écoute, si vous voulez penser à des attaques quelconques, AI et autres, le truc est facile. Tu fais juste checker le user agent qui call ton site web. Si c'est un user agent d'un AI, tu peux y faire dire ce que tu veux ou tu peux y donner l'information que tu veux. Fait que les AI à cette heure, OpenAI, Claude, etc., font du browsing. Ils vont voir la donnée sur les sites web. Fait que tu peux avoir un if égale ChatGPT, donne-y de la merde. Fait que les résultats de tout le monde vont être tout croche.
Mais ça, un user agent, Patrick, ça se forge pas.
Ça se forge, mais...
C'est sécuritaire, bien sûr.
C'est ça l'affaire. Puis,
moi, je trouve qu'on perd beaucoup de scope par rapport à ce qui est possible en termes d'injection. Je veux dire, nous, les vieux de la vieille, on a connu l'époque où on visait à trouver c'est quoi les inputs qui sont contrôlés par l'utilisateur pour affecter les systèmes.
Ouais.
Maintenant, l'input, il est clair. Tout le contenu, il vient...
C'est tout au complet à cette heure-là.
Donc, tu sais... Le problème formel de se protéger contre une injection de prompt, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de protection à faire contre ça parce que tu peux toujours manipuler le contenu. La question, c'est est-ce que tu vas savoir si le contenu est manipulé par un AI ou pas, comme tu as dit. Bon, on a des indices avec les user agents et compagnie, mais dans l'absolu, ça va juste être une course au chat et la souris à savoir comment qu'on va déguiser le fait que c'est un AI qui parse le contenu ou pas. Donc,
Oui. Puis pour le fun, récemment, j'ai essayé de faire modifier la AI User Agent. Puis ils veulent pas. Il y a sûrement moyen. Là. J'ai pas fait ça pendant des heures. Mais par défaut, si tu lui dis, fais-moi un script ou fais telle recherche en modifiant ton User Agent, et ils sont pas contents puis ils veulent pas. Je suis sûr qu'évidemment, là, en faisant des beaux prompt injections, on peut bypasser ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui va dire « Fais-moi une recherche à telle place », c'est le user agent par défaut. Fait que tu peux quand même contrôler ton contenu sur le web que quand c'est un user agent qui est égal à un AI, de retourner ce que tu veux, que ce soit mieux ou que ce soit pire. Fait que là, on tombe dans ce bizarre, cet Internet bizarre-là. Je sais pas comment on peut l'appeler. T'as le dark web, t'as le web, puis là, t'as le...
Le weird web.
Je sais pas. Le fake web. C'est n'importe quoi. Fait qu'on va se retrouver avec un site web qui génère deux trucs différents. Parce qu'il y a un avantage à donner de l'information différente au AI, parce que l'utilisation est tellement grande, et pas juste seulement à retourner une page web, à retourner du contenu utilisé dans des recherches et plus. Fait que là, il y a comme un jeu ici qui se met en place, là. Mais c'est un peu fou, là, d'une certaine manière. Et retournons, je sais pas c'est dans quel pays, ça. C'est-tu US ou c'est Europe? Je pense que c'est une Nouvelle-Zélande et autres qui ont trouvé ça. Mais Guillaume, une des plus grandes bases de données qui a été trouvée sur Internet, qui fut une belle histoire, très, très drôle.
Oui, en fait, c'est drôle, puis c'est pas drôle.
Ouais,
donc, si vous avez moindrement écouté les nouvelles de cybersécurité des derniers jours, il y a un serveur de base de données qui a été trouvé. En fait, c'est pas un serveur de base de données, que le backup d'un serveur de base de données. Donc, le backup MS SQL d'un gros serveur d'une des plus grandes firmes comptables au monde, donc Ernst & Young, qui a été disponible pendant 5 minutes dans un bucket non protégé. On étant le chercheur qui a démontré l'attaque, entre guillemets. Alors, je dis attaque avec beaucoup de guillemets ici. Mais bref, un gros fichier de 4 terabytes, je répète, 4 terabytes de données comptables des clients d'une entreprise de comptabilité les plus prestigieuses au monde, s'est retrouvé tout nu, libre, dans un bucket téléchargé public pour être téléchargé. L'analyse a révélé que c'est une manœuvre excessivement simple qui a eu lieu. C'est un backup, donc c'est de l'automatisation de backup. Et pour des raisons d'efficacité, ben une personne s'est dit que ça serait une bonne chose de désactiver temporairement l'ACL, donc l'Access Control List du fichier, pour le rendre public. Donc au lieu de contourner et de prendre le chemin sécurisé qui était supposé utiliser par le biais d'un réseau interne, etc., etc. Il l'a rendu public et l'a téléchargé.
C'était trop long, 2 minutes. Là.
C'était trop long, 2 minutes.
Trop long.
Donc, c'est troublant à quel point c'est simple comme mode d'échec. Donc, on peut parler d'attaque, on peut parler de brèche de sécurité, mais ici, c'est vraiment... Non. On a ouvert la porte, on l'a laissé débarrer.
Oui, il y a 50 zombies à la porte, là. On l'a ouvert la porte, parce qu'on a dit, ben, 2 minutes.
Oui, et tu sais, ça a été spoté avec des scans vraiment de base qui cherchaient des noms de fichiers, ici l'extension .back, donc pour les backups. Donc, c'est profondément troublant de voir qu'il n'existe pas de filet de sûreté pour ces procédures-là. Et à quel point, ici on parle des plus grandes firmes comptables au monde, à quel point on est vulnérable du côté humain à des erreurs humaines et autres, à des AI. Donc, il n'y a pas de filet de sécurité. Et ce, même dans les grosses entreprises, on parle beaucoup que c'est des questions de manque de budget, on parle beaucoup de manque de ressources. Non. Ernst & Young, ils ont des ressources, plein les oreilles, plein les orifices, et pourtant, on arrive avec des erreurs aussi flagrantes que ça. Donc, je pense qu'il y a une belle leçon pour tout le monde ici, que c'est pas parce qu'on est gros qu'on est à l'épreuve des erreurs de base. Une belle nouvelle qui fait sourire.
Ouais, puis tout ça pour dire que vous pouvez scanner pour des fichiers .bak, backup, ça existe encore et ça fonctionne encore, c'est assez... surprenant, triste, mais drôle. Ouais. Et on finit ça avec grande nouvelle locale, ou pas grande, ça dépend comment qu'on voit ça. Le Parti libéral du Québec veut créer une solide expertise interne en informatique au sein du gouvernement. Il faut créer une équipe, soit du numérique gouvernemental, qui sera mieux rénuméré pour mettre fin au fiasco du Québec. Tout cela avec... Ouais, t'es un peu, là. Ouais, allez, go. Pour parler de ça, on a besoin de ce tune, là. Pour parler de ça, ils ont dit qu'il voulait quatre éléments principaux qu'il voulait changer. On parle de créer une équipe d'élite, on vient de le dire. Séparer les rôles. Donc, le ministère fixe la vision, mais l'exécution revient à une équipe indépendante avec un directeur principal d'information plus autonome et vigilant dans le sens qu'il serait disconnecté du reste du gouvernement et indépendant. Ils veulent déployer les projets en étapes au lieu de prendre un projet sur, je sais pas, 10 ans, ils vont le faire en plusieurs petites étapes. Oui, merci de nous écouter. Ça fait juste 20 ans que tout le monde dit ça. Et rendre les suivis publics et clairs, créer un vrai tableau de bord. Ouais, ça, ça change rien, il existe déjà, là. Et c'est tout. On parle pas de régler aucun problème gouvernemental ici. On parle juste d'améliorer ce qui marche déjà pas. Je sais que Steve et certains d'entre vous avaient communiqué sur le web, mais sacrement, qu'est-ce que c'est ça, cette cochonnerie-là?
Ben, disons...
Il y a des bonnes idées, là, on s'entend. Il y a des bonnes idées, mais... Ça règle aucun problème. C'est quoi le problème des projets gouvernementaux?
C'est, là,
c'est les appels d'offres.
Ben, en partie, parce que même si l'appel d'offres serait bien écrit, tout a bien été, là, dans l'exécution, le chiot pogne pareil. Parce que
oui.
T'as pas les bonnes personnes, t'en as qui... En tout cas, moi, là, c'est demain, je l'ai
compris. Non, c'est ça, c'est ça qui est ça. Tu as 100% raison. Fait que tu as l'appel d'offres qui n'est pas un des quatre points, ce qui est un fait ridicule.
Ouais.
Et après ça, comme tu viens de dire, tu n'as pas les bonnes personnes aux bonnes places qui prennent les décisions.
Mais non.
Est-ce qu'une équipe d'élite technique va prendre les décisions des sous-ministres et des adjoints et de ceux qui font des gestions de projet? Non!
Ben, c'est là
c'est
l'intention.
Pas ça, le problème.
L'intention véhiculée par cette annonce-là, c'est qu'il y a pleine autonomie dans la mise en application que d'arrêter des folies, comme qu'ils ont souligné cinq fois
parce...
le DPI a essayé d'arrêter justement...
100%.
Voyons, Santé Québec. Fait que là,
mais,
vas-y.
Là, on veut arrêter des choses.
Ouais.
Mais le problème, c'est pas des arrêter. Ben oui, il faut être capable, là, mais le vrai problème, c'est de les réussir. Est-ce qu'on va les réussir avec une équipe mieux payée? Non. Faut des gestionnaires qui savent qu'est-ce qu'ils font. Puis qu'ils prennent des décisions qui ont du sens. Parce que si t'as pas ça, tu retombes à l'équipe d'élite qui va dire « Arrête le projet. Hey, » Tu l'as pas fait, le projet. Tu fais juste toutes les arrêter. Fait qu'avec cette approche-là, moi, perso, de la manière que je le comprends, on arrête tout le projet gouvernemental. That's it. Il y en a pas de fixer les trucs comme du monde. Parce que les gestionnaires qui comprennent fuck all en TI sont tous en place encore.
Ouais.
Ils ont pas crissé personne dehors avec cette approche-là.
Ah, c'est pas l'intention, tu le sais, là, mais...
Estillon, oui, le sait, c'est sûr.
Ben, moi, le gros point que j'ai souligné par cet article-là, c'est qu'en l'absence d'une... C'est, pourtant, le MC, il y avait une vision claire. Là. Ça, là, quand le ministre a vendu son idée, le ministère, l'ex-ministère, c'était facile de dire, ben, on s'en va dans cette direction-là. Puis, si tout le monde aurait suivi la parade, aurait suivi, là, on aurait eu quelque chose de bien. Moi, ça, c'est une prédiction que je peux vous faire. Par contre, il y en a qui n'ont pas cru en cette vision-là, puis qui ont dit ça ne marchera jamais, on le fera pas. Bang! Déjà là, tu as une gang là, qui ont dit on n'avance plus, on ne fait plus rien. Fait que déjà là, il y a des éléments côté employés qui ont ramé à contre-courant pour que ça ralentisse, etc. Puis ça, je l'ai eu, là. Les gens me l'ont dit devant moi. Puis quand l'élection a passé en octobre 2022, ils ont dit ah, mais finalement, on ne changera pas de nom parce que là, ils venaient de passer de CSPQ à ITQ, ITQ à MCN. J'ai compris. Et que là, OK, on va travailler pour les quatre prochaines années comme ça. Là, il y a un semblant de vouloir de démarrer quelque chose qui a débuté. Mais avant ça, là, ça travaillait à contre-courant, mais pas à peu près. Fait que déjà, si cette nouvelle agence de SWAT team, que le nom portera peut-être, se rend à exister, indépendant de tout parti politique, autrement dit, nommé par l'Assemblée nationale, disons, ben, ça là, c'est quelque chose d'intéressant. Là. Puis on l'a à l'interne. Puis,
de l'intéressant.
On a toujours dit que ça devrait être comme ça, comme le CISA puis tout ça.
Exact. Mais tous ceux qui créent l'incompétence et les problèmes des projets sont toujours en place.
Ça ne
change rien à ce niveau-là.
Ben oui, parce que demain
parce
matin.
On a la plus belle exemple.
Là. Oui, laquelle?
Excuse. Santé Québec, ils ont mis plein d'experts. Mais c'est un désastre qu'on essaye d'arrêter déjà.
Ouais.
Ça fait même pas un an.
Puis, mais tu sais, c'est ça. Là,
c'est
moi,
tout
quand...
du monde du privé, là.
Exact. Puis, quand on dit que ça devrait être là, efficace, comme le CISA, etc., ben, le CISA, quand ils émettent une directive, elle est exécutive, il n'y a pas de revenez-y. Make it happen, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, est-ce qu'on a cette mentalité-là ici de faire du make it happen? Pas tout le temps.
Ben, moi, je pense qu'il y a un petit pas en arrière à faire ici.
Oh, comment ça?
Il était une fois une fonction publique où on avait beaucoup de difficultés avec les projets informatiques. Et on s'est dit, écoutez, on a une idée brillante, créons une force d'élite où on va avoir un ministère qui va être dédié à la cybersécurité et au numérique. Et donc, cette idée de faire une force d'élite s'est matérialisée dans toutes sortes de façons dont on a beaucoup ri. Mais l'idée ici, c'était qu'on allait créer un gouvernement et un groupe d'élite où on allait avoir les ressources et les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions en matière de projet. On sait comment ça a viré et aujourd'hui, on a une autre idée de génie. Notre force d'élite, ça n'a pas marché comme on voudrait. Faisons une deuxième force d'élite pour superviser la première force d'élite. Et je pense que c'est plutôt dans cette mentalité-là qu'on peut peut-être envisager cette nouvelle recommandation. On va savoir pourquoi qu'on n'a pas fait ça en premier lieu. Je veux dire, c'était l'idée d'avoir du MCN, c'était l'idée d'avoir des personnes compétentes. Maintenant, ça nous prend des personnes on retourne à l'idée initiale. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est qui lobby en arrière de ça, de nous proposer un SWAT, de nous proposer ce genre de méthodologie-là. C'était l'idée initiale de créer un ministère du numérique. Donc, c'est...
Faut quand même dire le mot, là. On a parlé de Top Gun à Santé-Québec. Là, on est rendu au SWAT. Je sais pas c'est quoi le prochain mot, mais ça s'en vient. Puis, le problème de tout ça, comme tu dis, on répète l'histoire, mais on n'a rien réglé. De rien, là.
Non.
Dans le sens que...
On règle rien et on ajoute des plasters sur des plasters sur des plasters.
Oui, oui, tout à fait. Puis le pourquoi que ça ne s'est pas réalisé avant, c'est parce qu'il n'y a personne qui a une colonne puis qui veut faire bouger les choses. Ils ont toute peur à leur job puis ils ont toute peur que quelqu'un perde sa job. On tourne en rond, pour vrai.
Il y en a qui n'aiment pas...
Même dans la phrase, là, de...
Il y en a qui n'aiment pas ça quand tu lui dis que, hey, j'amène une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de penser qui devrait vous aider dans qu'est-ce qu'on fait au quotidien. On le fait-tu?
Tu as besoin d'un grief quand tu dis ce mot-là, mon Steve.
Je sais.
C'est même, ça marche.
Il y a eu quelques-uns.
Fait que tu sais, la députée libérale, là, excusez, je ne suis pas capable de dire son nom. Michelle Seth Lockwood. Ouais. A dit, puis j'adore cette phrase-là parce qu'on le sait que c'est pas vrai, là. Une fois qu'on a l'expertise en place, le reste devrait bien aller. Ah, y a des arcs-en-ciel déjà, c'est beau à voir. C'est-à-dire avoir une voix qui soit entendu et une chaîne d'imputabilité claire. Hey, fais-moi rire, sacrement. Une chaîne d'imputabilité. Il n'y a personne qui a perdu sa job sur sa hack.
No.
Zéro. Vous allez me dire qu'il y a une chaîne d'imputabilité claire parce qu'il y a des élites. Come on. Dès qu'il y aura quelqu'un qui va oser sacrer dehors des gestionnaires, on parlera. Mais à part ça... Comme Guillaume a si bien dit, on répète l'histoire, mais on la spin différent avec des mots similaires.
Okay, oui.
C'est triste. Fait que, ben, j'espère que tout le monde, vous êtes bien heureux de tout cela. Ils ne sont pas élus, fait que je ne sais pas ce que ça va donner, tout ça. Mais bon. Fait que ça fait le tour. Si on retourne au positif, évidemment, tous les efforts avec la Lettonie, avec l'armée, on va en reparler. Le Québec sec, regardez ça au chaque quatrième jeudi de chaque mois à Québec. Et on planifie un IAC vers la fin mai, début juin. On se reparle tout le monde là-dessus. On finit l'année en grand. Il va y avoir évidemment le bye-bye de la French Connection qui va être annoncé sous peu pour la fin décembre. Et j'espère qu'on se trouvera une date pour tous se rencontrer live pour enregistrer un autre show. Mais merci, messieurs. On se reparle bientôt.
Merci, messieurs.
Merci, tout le monde.
À la prochaine.
Yes, bye.
The French Connection. Mm. French Connection.